Chers frères et sœurs, nous connaissons bien l'évangile des tentations du Christ au désert que nous entendons chaque année au premier dimanche de Carême. Et je vous propose de le recevoir avec les autres textes de la parole du Seigneur, non pas directement, mais en passant par la liturgie de l'Église. C'est une chose fort importante parce que nous ne sommes pas une religion du livre ni d'un texte. Nous avons mis notre foi en un Dieu vivant qui nous parle, qui se révèle à nous dans la personne du Christ, qui est précisément sa parole, son Verbe incarné, et que Dieu nous conduit au Christ, dans le sein de l'Église, qui est comme la mère qui reçoit la vie du Christ, mais qui nous la communique dans un sein maternel et nourricier, où nous sommes ensemble rassemblés, entourés, protégés, nourris, tout comme le sein d'une mère. C'est ce qu'est en profondeur l'Église pour nous. Et elle le fait par l'ensemble de sa vie et tout particulièrement, en premier lieu, par l'ensemble de sa liturgie. Les textes liturgiques, les rites, les symboles, les sacrements sont les moyens, les médiations par lesquelles nous rentrons en contact avec le Christ et dans lesquelles nous sommes formés à la vie avec le Christ. Dans la prière dite collecte, la prière, la grande oraison d'ouverture de la messe, elle s'appelle collecte parce qu'elle rassemble toute notre prière. L'Église nous a fait demander à nous ceci au Seigneur, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ. C'est le premier objet de notre réception de la foi. Non pas d'abord tout de suite voir pour nous, pour moi, ce que ça me dit, mais comment la parole du Seigneur nous fait rentrer dans l'intelligence profonde du mystère du Christ. Et ensuite, d'en rechercher, si nous ne pouvions retenir que cela aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous aurions, je crois, fait l'essentiel. Et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Contempler le mystère du Christ, le réaliser en nous, dans une vie qui corresponde au mystère que nous avons contemplé. Et tout à l'heure, dans la préface, dans le début de la prière eucharistique, où l'Église nous apprend à nous tourner vers le Seigneur, à mettre nos cœurs hauts vers lui, et avant d'entrer dans le récit de l'institution de l'Eucharistie, l'Église nous apprend à contempler les mystères du Christ, à rendre grâce et à nous laisser nous en inspirer. La liturgie va dire ceci. En jeûnant 40 jours au désert, le Christ consacrait le temps du carême. C'est un temps consacré par le Christ. Et nous le manquons tout à fait si nous le vivons plus ou moins à côté ou en dehors du Christ. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. C'est remarquable. Les tentations du Christ ne sont que la continuation qui continue toujours pour chacun de nous aujourd'hui, de la tentation des origines, du péché originel. Nous ne pouvons rien comprendre au salut dont nous avons besoin, à la guérison dont nous avons besoin, si nous ne situons pas dans l'œuvre merveilleuse que Dieu a faite en nous la tentation et le péché des origines. Sinon, de quoi aurions-nous besoin d'être sauvés, guéris? On ne voit pas, on ne voit pas. Dieu a fait en nous une œuvre belle et merveilleuse qui vient de lui, qui est remplie de ses dons. Si nous ne comprenons pas qu'il y a eu quelque chose d'abîmé par une action d'un type particulier qui continue en nous, le mystère pascal ne sert, ne nous est pas accessible, il ne sert à rien, et encore moins le carême. Écarter le ferment du mal. Expression remarquable, frères et sœurs. Le mal n'est pas seulement un fait puissant en nous à tel moment. Il dépose, lui aussi, en nous, un ferment qui va agir dans le temps pour nous détourner de notre vrai bonheur, de la communion avec Dieu et avec nos frères, et de la pleine compréhension, réalisation de nous-mêmes. C'est le danger du mal que nous ne voyons pas. « Oh ben, c'est pas grave, j'ai fait bon, ceci ou cela, ce n'est pas si grave, et le Seigneur va me pardonner. » Oui, mais entre-temps, le mal agit en moi comme un ferment. Il n'y a qu'à voir. Les guerres internationales ne commencent pas immédiatement. Il y a un profond ferment pendant des dizaines d'années dans le cœur et l'esprit d'un certain nombre de personnes qui s'insinue et qui fait son œuvre petit à petit jusqu'à ce que la guerre éclate avec ses chars et ses divisions. Mais c'est pareil en nous. Et la liturgie poursuit. Donc il s'agit pour nous d'apprendre à ne pas nous laisser piéger par des illusions, mais qui se présentent à nous toujours sous une apparence certaine de bien, une certaine attraction. Et ensuite la liturgie continue. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. Le carême est en nous une œuvre de pédagogie divine, un temps d'apprentissage pour que nous puissions pleinement célébrer de tout notre être, avec toute notre vie, le mystère pascal du Christ à Pâques, dans lequel est contenu le début, le commencement, le germe pour le coup, de notre Pâques éternelle, le passage, la Pâque, la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, le passage du Christ de la mort à la vie, notre Pâque de cette vie terrestre à la vie éternelle pour laquelle nous sommes faits. C'est cela l'enjeu, nous laisser purifier, nous ouvrir à l'œuvre de Dieu en nous pour qu'il l'accomplisse en nous, qu'il nous amène, qu'il nous attire dans la Pâque du Christ qui est le début, la porte de la Pâque éternelle. C'est dans cette lumière, frères et sœurs, de la prière de l'Église que nous pouvons comprendre, me semble-t-il, ce que nous dit la parole du Seigneur. D'abord, elle nous dit que pendant ce temps des 40 jours au désert avec le Christ, il ne s'agit pas d'abord de faire tel ou tel effort ascétique qui ne pourra que nous décevoir. Parce qu'il est toujours difficile et qu'on a toujours du mal à y arriver, et parce que l'ascèse ne donne pas l'amour. Cela ne veut pas dire que pour aimer, il n'y a pas besoin d'une certaine ascèse. Mais la première chose du carême, c'est de réalimenter notre vie à sa source, qui est la personne du Christ. Sa personne, sa parole, ses mystères. Nous avons entendu dans la première lecture le peuple de Dieu qui qui va vers la terre promise et qui cherche la terre du bonheur, du lait et du miel. Cette terre, pour nous, frères et sœurs, a un nom, c'est la personne du Christ. Il s'est uni à notre humanité pour nous assumer en lui. Et c'est en lui et en lui seul que nous pouvons défier les pièges du tentateur et accéder à l'amour de Dieu. Pendant ce carême, contemplons le mystère du Christ. Regardons-le. Aimons-le. Mettons-nous sous le rayonnement de son amour. Ces jours-ci, je pense à la magnifique liturgie, aux magnifiques églises de la liturgie orthodoxe. Souvent, dans l'abside de l'église, il y a un magnifique Christ Pantocrator qui illumine, envahit tout l'espace. C'est lui le maître, c'est à lui que nous allons. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est en nous, il nous entoure, il est notre route, il est notre Dieu. C'est le but et le moyen du carême. Le deuxième élément, c'est de remarquer comment Jésus est conduit à ses tentations. Parce qu'il faut distinguer en nous les mêmes choses. Puisque nous vivons du Christ, l'évangile du Christ continue dans notre vie. Il est le moyen pour nous de comprendre ce qui se passe dans notre vie. C'est bien l'Esprit qui pousse Jésus au désert. Ce n'est pas l'Esprit qui le tente. La tentation ne vient pas de Dieu. L'Esprit, lui, pousse Jésus au désert pour nous apprendre à renouveler notre foi dans une rencontre plus entière, plus profonde avec le Seigneur. Dès que nous marchons davantage vers le Seigneur, il y en a un qui veut nous empêcher, nous faire peur, nous emmener sur des fausses pistes, et dans le désert, des fausses pistes, c'est facile. Donc distinguons, frères et sœurs, dans notre vie, discernons. L'Esprit nous pousse toujours vers le Seigneur, de l'intérieur de nous-mêmes, et il nous apprend à être libres, à être responsables, à devenir nous-mêmes. Le tentateur, lui, veut toujours nous asservir et se sert toujours de l'apparence d'un bien jusqu'à, c'est ce qu'il fait avec le Seigneur, se servir de la parole de Dieu. C'est fou. Le Christ est tenté par le démon avec, au moyen de la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne nous faut pas lire, interpréter tout seul la parole du Seigneur. Il faut le faire dans l'Esprit Saint et dans l'Église. C'est très dangereux. Toutes les hérésies, tous les schismes, toutes les tentations les plus profondes ont eu comme, non pas comme point de départ, mais comme moyen d'utilisation pervers la parole de Dieu elle-même pour nous faire croire que là était le vrai bien demandé par Dieu. C'est absolument terrible. Et les tentations nous viennent sur nos points faibles, évidemment, qui sont affaiblis depuis le péché des origines. Le salut dans l'avoir, dans le pouvoir, dans l'orgueil de la volonté, même dans l'anti-foi. La foi consiste à nous en remettre au Seigneur, à lui obéir, à nous laisser conduire par lui, à nous en remettre à lui, non pas à le tenter et à le soumettre à nos exigences déviées. Comment Jésus répond ? Par la parole de Dieu et par le chemin qu'il nous indique d'un amour authentique et d'une foi purifiée. Acceptons, frères et sœurs, que pendant le chemin de carême, notre foi soit éprouvée. Dieu ne veut pas que nous soyons tentés jusqu'au péché, Dieu veut que notre foi soit éprouvée pour qu'elle grandisse, pour que notre amour de lui, de nos frères, de nous-mêmes, soit plus grand, plus entier, plus heureux, qu'il nous prenne tout entier parce que c'est notre bien. Alors, frères et sœurs, c'est le but du carême, il nous a été bien dit. Nous pourrons pleinement célébrer, c'est-à-dire participer au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, c'est-à-dire en lui donner notre vie pour le monde et pour nos frères, et en lui passer déjà, dès maintenant, à la vie éternelle. Que l'Esprit Saint, frères et sœurs, nous pousse fortement, qu'il nous rende libres, qu'il nous rende un amour plus grand, plus lumineux, plus beau. Amen.